Le texte d'évangile proposé pour ce quatrième dimanche de carême est l'histoire du père et des deux fils, qui est bien connue, ou l'histoire du fils prodigue, ou du fils perdu et retrouvé. Mais j'ai plutôt choisi ce matin de partager avec vous les deux histoires précédentes, qui forment en réalité un ensemble de trois histoires, avec celle du père et des deux fils, pour ce matin, la brebis perdue et la pièce égarée. Jésus est critiqué par les maîtres de la loi parce qu'il accueille auprès de lui des pécheurs. Et loin de s'offusquer, il se met à leur raconter des histoires. C'est intéressant comme réponse lorsqu'on est critiqué. Racontez une histoire. J'y réfléchirai. Nous sommes dans le chapitre 15 de l'évangile de Luc. Juste avant, Jésus s'adresse aux foules pour leur expliquer que le suivre implique de tout quitter. Et c'est aussi dans ce contexte de la question « qu'est-ce qu'être disciple ?» que Jésus raconte. Raconter des histoires ou paraboles dans le Nouveau Testament est une fonction pédagogique. Jésus utilise des images concrètes, des situations qui pourraient être réelles pour faire comprendre ses enseignements. Comme pour les histoires que nous racontons à nos enfants ou à nos petits-enfants, raconter permet de grandir et de structurer sa pensée. Souvenez-vous, pour notre journée d'automne, c'est avec une histoire, la grand-mère qui sauva tout un royaume, que nous avions démarré notre journée. Jésus utilise ce procédé intemporel pour que ses auditeurs parviennent à saisir le bouleversement de sa venue et vivre de la foi en lui. Parmi vous, raconte Jésus, un homme a 100 moutons et en perd un. Bien sûr, il va laisser les 99 autres pour chercher celui qui est perdu. Et une femme a 10 pièces d'argent et en perd une. Bien sûr, elle va allumer une lampe et balayer la maison et chercher la pièce jusqu'à ce qu'elle la trouve. Ces deux histoires nous parlent de recherche. L'homme, la femme, cherche. Et ici, dans l'image que Jésus utilise, Dieu prend la place de l'homme dans la première histoire et de la femme dans la deuxième. Intéressant. Dieu prend la place de la femme. Qui part donc à la recherche, coûte que coûte, d'un bien précieux, un mouton ou une pièce d'argent qui à l'époque correspondait à une journée de salaire d'un ouvrier. Nous sommes plutôt habitués à entendre que l'homme ou la femme cherche son Dieu. C'est ce que nous appelons la religion. Étymologiquement, c'est la tentative humaine de relier l'être humain à Dieu. Mais ici, dans l'Évangile, Jésus nous présente le mouvement inverse. C'est Dieu lui-même qui cherche l'homme, la femme, son enfant perdu. Dans la religion, le mouvement va de la terre, de l'être humain, vers le ciel, vers Dieu. Dans l'Évangile, en revanche, il va de Dieu vers l'homme. C'est la grâce. C'est la foi. C'est Noël. Nous sommes en présence du Dieu fait homme, Dieu venu habiter parmi nous pour nous sauver. Nous approchons de Pâques. Et cette action de chercher dans ces deux histoires m'a renvoyée au passage qui suit la mort de Jésus et sa mise au tombeau. Vous savez, les femmes arrivent au tombeau pour embaumer le corps. La pierre a été roulée. Le tombeau est vide. Et là, deux hommes apparaissent. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort. En Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, nous pourrions dire que la religion est morte. Toute tentative humaine de chercher Dieu est vaine, ou plutôt caduque. Il n'est pas ici, il est vivant. Comprendre qu'en Jésus-Christ, la mort se transforme en vie est le pari de la foi. En lui, ce n'est plus l'être humain, sa créature, qui doit par ses efforts rejoindre Dieu. Mais c'est Dieu lui-même, le Père, le Créateur, qui dans son amour vient vers ses enfants pour leur donner la vie. Voilà le renversement extraordinaire auquel l'Évangile appelle en Jésus-Christ. C'est le bouleversement de toute la foi chrétienne. Et dans nos deux historiettes, Dieu cherche ce qui lui tient le plus à cœur. Celui pour qui il a créé le monde, conclu des alliances, donné sa loi, les prophètes, envoyé son fils. Il cherche l'homme avec un grand H. Vous connaissez sûrement l'histoire de Raymond Devos. Dans une vieille église en Lozère, un homme rencontre Dieu qui est en train de le chercher. L'homme entre et voit Dieu en train de le prier. Désespéré de ne pas le trouver, Dieu dit « Ô homme, si tu existes, un signe de toi. » C'est cela l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. Dieu nous cherche. Bien sûr, non pas dans le but de nous asservir, de nous contenir, de nous mettre sous cloche, mais pour nous libérer, pour nous révéler à nous-mêmes, pour nous offrir d'exister en vérité. Dès l'origine du monde, dans le premier livre de la Bible, la Genèse, Dieu cherche sa créature dans le jardin, après que celui-ci ait choisi le mal et ait ressenti la peur et le besoin de se cacher. Le Seigneur Dieu appelle l'homme et lui demande « Où es-tu ?» Encore un peu plus loin, après que Caïn ait tué son frère Abel, Dieu cherche « Où est ton frère Abel ?» Nous pourrions penser que l'homme est un chercheur infatigable du divin. Mais c'est le contraire qui est vrai. Dieu cherche l'homme. Dieu me cherche chaque jour, à chaque instant. Dieu cherche son unique, son précieux, car chacun de ses enfants a une place de choix. Aucun ne sera laissé à l'abandon. Donner une place importante à chacun rappelle l'importance du prénom dans la Bible. Nous sommes aimés, reconnus, accompagnés, chacun individuellement, pour ce que nous sommes, dans notre unicité et notre beauté spécifique. La brebis perdue fait partie d'un grand troupeau, certes, mais elle seule a une valeur immense. Et la pièce perdue permettra à la femme, quand elle l'aura retrouvée, d'accomplir ses projets, de combler ses besoins et ceux de sa famille, d'être nourrie et de nourrir, d'être digne et de rendre digne. Une seule pièce lui permettra d'être elle-même. Je t'ai appelée par ton nom, tu es à moi, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux. Dieu nous connaît par notre nom. C'est ce que nous avons entendu dans le livre du prophète Ésaïe. Il nous connaît même mieux que nous-mêmes. Et c'est la même promesse que nous partageons à chaque baptême, en insistant sur le prénom dans la formule de bénédiction. Alors mes amis, puisque Dieu nous cherche, que faire? Nous laisser trouver, bien sûr. S'il est évident que Dieu part à notre recherche, comme l'écrivent nos deux histoires, il est aussi évident qu'en retour, nous sommes appelés à nous laisser trouver. Nous tous, qui que nous soyons, nous sommes invités à prendre conscience que Dieu nous cherche, quand nous le fuyons, quand le diviseur fait sa place en nous, quand la peur, la culpabilité, la violence, la tristesse, la désespérance prennent toute la place, quand nous oublions que nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous cherche. Et jamais il ne se lassera. Coureur infatigable, il partira toujours à notre rencontre quand nous nous égarons. Laissons-nous trouver par Dieu. Est-ce alors la réponse à notre question de départ? Qu'est-ce qu'être disciple? Est-ce que tout quitter signifie se laisser trouver? Marcher à sa suite implique de se laisser trouver d'abord. Alors, laissons cette bonne nouvelle nous irriguer et nous faire naître en femme nouvelle, en homme nouveau. Et soyons-en assurés, la joie sera parfaite. C'est à la fin de chacune des histoires que la joie éclate. Quand l'homme retrouve son mouton et la femme sa pièce, la joie est si grande qu'ils veulent la partager. Ils appellent leurs amis et leurs voisins, « Venez, réjouissez-vous avec moi. » Comme dans les contes de fées, nos deux histoires se finissent en apothéose, dans une joie vraie et profonde. Dieu est dans une joie immense quand un seul pécheur change sa vie. Nos deux histoires ce matin parlent de chercheurs infatigables, de pères aimants, d'enfants précieux, de vie donnée, de joie partagée. Que demander de plus? Vivons de ces bonnes nouvelles, aujourd'hui et pour toujours. Amen.